Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, dans le Kinshasa.
Bon début de semaine à tous les auditeurs du magazine Okapi Service. Nous parlons à présent du conflit d'héritage. Vous savez, la gestion de l'héritage divise souvent les enfants d'une même famille après la mort des parents. Surtout lorsque les défunts n'ont pas laissé un testament. Des conflits d'intérêts graves naissent généralement entre frères et sœurs qui n'arrivent pas à s'accorder sur une bonne gestion commune des biens laissés par leur papa ou maman décédé. Alors, qu'est dit la loi congolaise à propos de la gestion commune du patrimoine familial. Maître Guilain Malher est notre invité encore une fois. Bonjour.
Bonjour, Jody, bonjour à tous les auditeurs.
Alors, maître, souvent, ces genres de conflits arrivent entre les frères qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la gestion, par exemple, des parcelles ou d'autres biens laissés par les parents. Alors, qu'est dit la loi congolaise à ce sujet?
Oui, très bien. Quand nous parlons de la loi ici, il s'agit de la loi du 1er août 1987 portant code de la famille. Mm-hmm. C'est cette loi-là qui organise la question de la gestion du patrimoine familial ou des biens laissés par les défunts. Je voudrais renchérir par rapport à ce que vous avez dit en ajoutant que effectivement, on a constaté qu'à l'occasion des partages des biens laissés par les couillous, donc les défunts, eh bien, il y a des dislocations au niveau des familles. On a connu même des cas d'assassinat et d'empoisonnement.
Entre
frères et sœurs et même membres de la famille qui prétendent aussi à la participation à ces partages, les oncles, les tantes et autres membres de famille éloignés. Bref, il y a une dichotomie entre la réalité, entre nos coutumes, nos pratiques et ce que prévoit la loi. Alors c'est ça la source de tous ces problèmes. Et d'une façon résumée, on considère que c'est parce que la population congolaise, dans sa majorité, ignore les prescrits du code de la famille et s'appuie plus sur des coutumes particulières. Et c'est ça qui nous cause tous ces problèmes que vous avez déplorés.
Et certains pensent que c'est parce que les parents n'ont pas le temps, n'ont pas la culture de laisser de préparer déjà un testament. Et ils vont disparaître un jour, brusquement, et puis laissant les enfants, laissant un conflit derrière.
J'ai donc apprécié tout à l'heure quand vous avez entamé l'émission en précisant tout de suite qu'on s'est situé dans le contexte d'une succession sans testament, donc ab intestat, parce qu'évidemment il y a moins de problèmes lorsqu'il y a un testament. Alors lorsqu'il n'y a pas de testament, qu'est-ce que l'on constate? On constate tout de suite qu'il y a de la précipitation autour du règlement du sort des biens du défunt. Alors que la loi prévoit un certain nombre de mécanismes qui sont très simples. La loi considère d'abord que celui qui est mort était marié à une autre personne. Si c'est le papa qui décède, il laisse une veuve, pour autant qu'elle soit mariée devant l'autorité de l'état civil, c'est-à-dire à la commune. Eh bien, une telle veuve a des droits dans le cadre de son contrat de mariage. Il faut d'abord que l'on procède à la liquidation du régime matrimonial que les époux avaient choisi lors de leur mariage, avant même d'en arriver à ce que les héritiers vont gérer. Donc, à ce niveau-là, si les époux, par exemple, c'est souvent le cas ici chez nous en RDC,
la communauté des biens,
communauté universelle
des biens.
Et donc, ça veut dire que tout ce que vous avez eu avant et pendant le mariage, eh bien, est commun entre les époux. Il faut d'abord se dire ça. Eh bien, il faut d'abord commencer par liquider ce régime matrimonial, c'est-à-dire donner à la femme ce qui lui revient dans le cadre de son contrat de mariage. Ça veut dire
que là, c'est 50-50.
La moitié des biens laissés par les défunts, enfin, la moitié des biens du ménage appartient en propre à la femme. Alors, c'est sûr.
Alors, ça, les gens ne comprennent pas.
C'est pour ça que je dis, il faut qu'on vulgarise suffisamment les codes de la famille, je dis. Et donc, c'est sur la quantité qui reste. L'autre moitié, là, c'est ça qui constitue les biens du défunt. Et c'est ça qui va constituer la masse successorale. C'est sur cette autre moitié-là que tous les autres héritiers vont venir maintenant en concours pour le partage.
Et parmi les héritiers de premier degré, deuxième.
Exact. Et parmi ces héritiers-là, il y aura de nouveau la femme. Et ceux qui sont privilégiés, évidemment, ceux qui ont les trois quarts de ces masses successorales, ce sont les enfants du défunt, qui sont nés dans le mariage, hors le mariage, mais à condition qu'ils aient été affiliés de son vivant, ainsi que les enfants qu'il aurait adoptés. Donc, ces deux catégories-là, les enfants, tels que je viens de les décrire, et la deuxième catégorie où il y a le conjoint survivant, donc la femme, qui revient maintenant comme héritière. Et ici, ce n'est pas dans les... Elle a déjà liquidé le régime matrimonial. Elle revient maintenant sur la quote-part du mari comme héritière de la deuxième catégorie, à côté du père et de la mère du défunt, ainsi que de ses frères et sœurs. Alors, c'est à ce niveau-là maintenant que l'on constate que rien n'est respecté dans la pratique. Déjà, on saute sur les biens en oubliant qu'on est en train, par exemple, on n'a pas liquidé le régime matrimonial. Donc, on est en train de prendre même de s'approprier des biens qui auraient dû revenir d'abord à la femme en propre.
Ouais, dans certaines familles, on le voit à Kinshasa, le papa décède, la maman est là, bon, elle ne connaît pas aussi très bien ses droits. Bon, elle a ses enfants, ses grands-enfants bon, qui commencent, qui gèrent. Par exemple, si c'est des, une parcelle, voilà, chaque enfant aura sa porte avec le locataire à la fin de chaque mois. Il a un peu d'argent, mais, mais parfois ça pose toujours des problèmes. Il y a certains qui sont malins, qui veulent vendre la parcelle, et puis les autres, ça crée toujours des conflits.
Au point qu'on en arrive à des situations confuses, telles que des femmes dont les maris décèdent, par exemple, nuitamment, cachent d'abord la nouvelle aux membres de famille, le temps d'évacuer. Elle-même n'est pas consciente des droits qui est là et des mécanismes que la loi prévoit pour protéger ses biens, parce que vous ne pouvez pas, si vous les prenez des forces, comme on les fait, vous vous rendez coupable d'infraction, notamment de l'infraction d'extorsion, hein, qui est punissable, je crois, de 5 à 20 ans de prison. Donc tout ça est protégé, mais tout le monde se comporte comme s'il n'y a pas de loi. Et donc les ayants droit eux-mêmes se comportent comme s'ils sont en train de voler leur propre bien, donc la femme qui va vite cacher les biens avant d'annoncer la mort du défunt, etc. Donc bref, je vous dis, c'est la loi qui n'est pas appliquée et elle pose des principes clairs. Après avoir donné à sa femme sa quote-part dans le cadre du contrat de mariage, il faut maintenant bien partager la masse successorale, donc les biens qui appartenaient en propre au défunt. Et là-bas, sur ces biens-là, les enfants ont les trois quarts qui leur est réservé, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la réserve successorale. Les trois quarts des biens du défunt sont réservés aux enfants. Même le testament ne peut pas y toucher. Souvent, on ne le dit pas. Alors, c'est le un quart qui reste, qui ira à la seconde catégorie, qui est la catégorie des conjoints survivants, et puis père et mère du défunt, ainsi que frères et sœurs. Et là, ils vont, les trois groupes-là, les trois sous-groupes, vont se partager le un quart à part égale. Ça veut dire un douzième pour chacun. Donc, la femme a encore, en plus de ce qu'elle a eu dans le régime matrimonial, elle a encore droit à un douzième des biens. Alors, sur le partage, maintenant, c'est, je crois que c'est ça l'objet de l'émission, mais lorsque ces biens ne sont pas encore partagés, ouais, cette masse successorale, là, on ne les partage pas normalement du jour au lendemain.
C'est une parcelle. Il y a une parcelle à trouver, le locataire, bon, on ne sait pas se partager, peut-être vendre. Ouais. Mais s'ils ne veulent pas vendre, bon, on va gérer, chacun va attirer son bénéfice.
Tout à fait, Il peut arriver aussi, pour ajouter à ce que vous dites, je dis que le défunt est laissé des dettes. Il avait des employés, il avait des domestiques, enfin du personnel domestique, il doit payer. Il avait des dettes à liquider. Donc tout ça ne doit pas se faire dans la précipitation. Voilà pourquoi la loi a prévu que dès que quelqu'un décède, on ouvre sa succession au lieu du décès, mais on nomme quelqu'un qui est appelé le liquidateur. C'est celui-là qui va gérer toutes ces questions autour de la gestion de l'héritage et du partage.
Alors, dans la famille, qui a la qualité, de devenir liquidateur?
Oui, c'est une très bonne question, je dis, dans la mesure où le code de la famille est très clair. C'est l'article 795 qui dit que le liquidateur légal, c'est-à-dire celui qui est désigné automatiquement par la loi, c'est le plus âgé des héritiers. Or, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a deux groupes qui viennent prioritairement en concours lors du partage de l'héritage, c'est-à-dire les enfants, les conjoints survivants, les pères et mères du défunt et les frères et sœurs. Alors, si le père et la mère sont vivants, il y a beaucoup de chances que le plus âgé des héritiers se trouve parmi eux.
Ce n'est pas l'enfant, l'aîné de la famille.
Voilà, je dis encore une croyance. Une croyance populaire qui tirait de nos coutumes, qui fait passer l'aîné des enfants comme l'héritier légal. Ce n'est pas vrai. Comme, pardon,
Le liquidateur.
Ah oui, le liquidateur légal, ce n'est pas nécessairement l'aîné des enfants. Il peut arriver que l'aîné des enfants soit le plus âgé des héritiers, tant mieux, il y a une coïncidence. Mais lorsqu'il y a un autre héritier qui est plus âgé que l'aîné des enfants, c'est celui-là qui est le liquidateur, c'est celui-là qui administre, n'est-ce pas, la succession et qui exécute les tâches qui sont dévolues au gestionnaire de la succession qui est le liquidateur. Et ces tâches sont...
Donc l'héritier là, c'est à n'importe quel degré, quoi.
Oui, c'est
peut-être du deuxième, du premier degré.
Oui, c'est le premier et le deuxième degré, justement.
Oui, oui. Ça peut être le petit frère du dessin.
Le petit frère du dessin.
Ou son père ou sa mère.
Oui, s'ils sont les plus âgés, si celui-là est le plus âgé des aînés. C'est lui qui a la gestion du patrimoine commun.
Oui.
Parce qu'avant le partage, tous ces biens sont en, comme on appelle, hein, c'est en droit, on dit en indivision. Ça veut dire tout simplement, ils sont communs à tous.
Oui.
On n'a pas encore partagé, donc tout le monde a les mêmes droits sur ces biens-là.
Mmh.
Alors, c'est le liquidateur qui gère et qui administre cette masse qui sera. S'il y a des loyers à percevoir, c'est lui qui les prend, qui les distribue, qui s'occupe, bref, qui gère la succession.
Mais si les autres ne sont pas d'accord, ne le reconnaissent pas cette qualité.
La loi a prévu cela. Il est possible que, pour une raison ou une autre, on conteste, hein, n'est-ce pas, la capacité du liquidateur à administrer. Eh bien, à ce moment-là, il est permis, n'est-ce pas, aux héritiers de porter la question devant le tribunal pour qu'un liquidateur puisse être nommé par la voie judiciaire.
En plus de l'héritage, je fais dire à la loi congolaise à ce sujet. Vous avez des questions, des préoccupations, appelez-nous déjà, composez le 081-890-6394. Nous recevons dans ce studio Maître Guillaume Malher et Joël.
Ils sacrifient leur vie au nom de la paix. Ils n'ont qu'un seul devoir, servir les peuples et les nations en conflit. Ils n'ont qu'un objectif, installer le dialogue et repousser les frontières de la violence. Rendons hommage à leur engagement. Le 29 mai, journée internationale des casques bleus.
Compris d'héritage, que dit la loi congolaise à ce sujet, Maître Guillaume, vous avez dit, il faut, après la mort du dauphin, qui laisse ses biens, on nomme un liquidateur qui est l'aîné
des héritiers,
des héritiers,
et dont le rôle est d'administrer la succession.
Alors comment on va-t-il administrer ces biens concrètement?
Merci. Concrètement, je vous dis, le liquidateur va d'abord commencer par payer les frais funéraires, n'est-ce pas? Il faut qu'il enterre les défunts. Bon, s'il y a des apports extérieurs, tant mieux, mais généralement, c'est sur le patrimoine laissé par les défunts qu'il faut d'abord ponctionner pour s'occuper des frais funéraires en priorité.
Mmh.
Ensuite, s'il y a des dettes, hein, des salaires, des traitements qui ont été laissés par les défunts, eh bien, il va les payer. De même, des autres taxes, droits qui sont payables, hein, à l'occasion de la succession, payables à l'État, il doit les payer.
Mm-hmm.
Ensuite, il s'occupe des legs particuliers, hein, legs, hein, des dons que le défunt aurait fait de son vivant.
Mm-hmm.
Il n'a pas eu le temps de concrétiser. Il fait tout ça. Donc, il exécute en fait les derniers actes que le défunt aurait pu faire, mais n'a pas pu les faire. Ensuite, il s'occupe du listage, n'est-ce pas, des héritiers. Nous avons dit ici que les enfants nés hors mariage, par exemple, sont admis comme héritiers pourvu qu'ils aient été affiliés du vivant du défunt.
Mmh.
Et donc, c'est ce monsieur-là, le liquidateur,
qui va établir la liste.
Qui va établir la liste. Qui va établir la liste de tous ces héritiers-là.
Oui.
Et puis, il va faire une proposition de partage conformément à ce que dit la loi. Vous voyez, souvent, le partage se fait sur des biens en nature, comme vous avez dit. Mmh. Ça peut être des parcelles, des maisons, etc.
Mmh.
Et donc, c'est lui qui va essayer de faire en sorte qu'il constitue des lots, pour dire les trois quarts de la succession sont constitués de ceci. Et bien, ils sont partagés entre vous, les enfants, les 10 enfants, comme ceci. Et les un quart qui reste pour les héritiers de la deuxième catégorie, voici le projet de partage qu'il soumet maintenant à une réunion du conseil des familles.
Mmh.
Lorsque cela est agréé, eh bien, à chacun, maintenant, on remet sa quote-part officiellement avec un procès verbal du conseil des familles, de sorte que chacun puisse maintenant aller mettre ses biens en son nom propre.
Mmh.
Et à ce moment-là, on dit que la succession est liquidée, le partage est fait.
Et si les oncles s'en mêlent, ils s'imposent, il y a un oncle influent qui récupère la succession.
Ils s'en mêlent toujours, ou pour ne pas dire toujours, souvent, je vous dis,
oui,
malheureusement. Et donc, on voit un oncle surgir de nulle part et dire, ça peut être paternel ou maternel, hein,
oui,
selon les cultures.
Mm-hmm.
Et ils prennent le pouvoir. Et malheureusement, il y a un aspect métaphysique, je ne sais pas comment l'appeler.
La sorcellerie, les gens, oui, on parle souvent de la sorcellerie.
Et qui font que.
Et si vous résistez, ils risquent de vous.
Les gens craignent ce genre d'intervention et finalement les gens reculent et la succession est réglée selon des principes particuliers, des coutumes, etc. Oh, nous avons, je crois, 450 tribus à peu près dans notre pays et presque autant de petites coutumes particulières. Vous voyez ce que ça fait si on entre dans ce jeu-là. Et voilà pourquoi, généralement, malheureusement, les véritables bénéficiaires de la succession sont lésés par l'intervention des personnes sans qualité, comme tous ces oncles et autres qui s'improvisent liquidateurs.
Bien. Bouvic nous appelle de Baraka. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur. Bonjour.
Quel est votre nom, Bouvic?
La proposition est celle-ci. Il y a un papa qui est mort, il avait des parcelles. Alors, il y avait beaucoup d'enfants. Après sa mort, il y a des enfants qui ne sont pas reconnus par sa famille. Après sa mort, donc les mamans de ses enfants sont venues au deuil en déclarant que les défunts a eu des enfants avec elle. Donc, ces enfants, est-ce qu'on aura les droits donc on aura les droits d'héritage?
Merci Boris pour la question. Samson, vous êtes à Boutembo, bonjour.
Oui, bonjour, je voudrais poser la question à notre invité. Qui doit payer les aides, donc des défunts qui n'ont rien laissé sur la terre?
Est-ce que vous avez un cas comme ça, Samson?
Oui, ça arrive souvent.
Oui, qu'est-ce qui arrive? Parlez-nous par exemple d'un cas précis.
Il y a des membres de la famille qui s'enivre souvent dans l'alcool, bon, qui n'a rien, et puis le maire, bon, et qui l'a déjà s'entêté, bon. Je voudrais savoir qui peut payer ces dettes-là.
Merci Samson. Oui, merci beaucoup pour ces deux questions intéressantes. Je commence par celle de Bovic de Baraka pour dire qu'effectivement, on voit cela à l'occasion des deuils des enfants venir de toutes parts. Alors la loi a voulu, n'est-ce pas, protéger le conjoint survivant de toutes ces surprises-là où l'on voit des enfants venir à gauche, à droite, prétendre que c'était les enfants du défunt, etc. Bon, ici, en ce qui concerne le partage de l'héritage, de la succession, il est clairement dit dans la loi que ces enfants, pour qu'ils soient participants au partage de la masse successoire, il faut qu'ils aient été affiliés du vivant du mari. Donc, il faut qu'ils les aient reconnus comme étant ses enfants de manière officielle. Hein, la filiation se fait au niveau de l'officier de l'état civil où vous allez déclarer vos enfants, on les enregistre comme étant vos enfants. Si cette formalité n'a pas été faite, à la limite, ces enfants peuvent plus tard engager une action en reconnaissance de paternité. Ils auront tout simplement le droit de porter le nom du défunt.
Dommage. Hein.
Mais pour les biens, s'ils n'ont pas été reconnus de son vivant, il ne les a pas présentés à sa famille, à celle de sa femme.
Malgré l'intervention de leur mère.
Non, ils ne sont pas reconnus par l'État. Ils n'auront rien dans le partage des biens. Mais ils pourront éventuellement, s'ils sont quand même reconnus comme tels, porter le nom du défunt comme avantage, entre autres. Mais pour les biens, il faut avoir été reconnu du vivant du défunt pour participer au partage de la succession.
Alors, Samson de Boutembo, on nous parle d'un alcoolique qui décède et qui laisse les dettes, qui va les payer.
Tout à fait. Il n'y a pas que les alcooliques, on peut être indigent, etc. Mais c'est ici le moment où d'interpeller, n'est-ce pas, les héritiers pour leur dire, en fait, qu'on ne vient pas à l'héritage, contrairement à la croyance populaire, on ne vient pas à l'héritage uniquement pour en tirer des bénéfices. Eh bien, quand on est héritier et qu'on accepte cette qualité, eh bien, on hérite et du passif et de l'actif. N'est-ce pas? Ce sont donc ces héritiers, ces enfants principalement, qui sont tenus solidairement de contribuer pour apurer les dettes qui ont été laissées par leur défunt papa.
Alors, maître, cela veut dire la loi ne prévoit pas des discussions pour permettre aux héritiers de gérer d'une manière commune les biens. Donc, il faut se le partager absolument.
Bon, oui, vous savez, le liquidateur, c'est ça son rôle. Hein, et si vous le faites, ce serait une direction à plusieurs têtes. Et ce serait compliqué déjà.
Compliqué.
Il fallait, par exemple, 10 signatures pour que l'on puisse engager la succession. Tous les membres de la succession peuvent ne pas même habiter au même lieu. Eh bien, ça peut être compliqué. C'est pour ça que la loi désigne un liquidateur légal. Et si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous allez devant les juges du tribunal de paix. Eh bien, il vous en désigne un, n'est-ce pas, judiciaire.
Bien. Tison, on nous appelle des Kalemi et Madame Tenda est à Kinshasa. Tison, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à notre invité.
On vous écoute, Tison.
Ok, moi, je suis étudiant, j'ai un droit INECAL. Ma question, c'est si j'aimerais savoir si la deuxième femme a le droit de faire le mariage civil.
Merci, Tison. Madame Penda, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, bonjour à notre invité.
Pardon.
Ma question est celle-ci. Il arrive à un couple que c'est la femme qui a investi au moins 70% et à la mort du mari, qu'est-ce qui va arriver? Quelle sera la part? Est-ce que les enfants hors mariage ont aussi droit à cette succession que la femme a produite avec son mari?
Maître, c'est formidable. Les questions sont...
Madame, restez encore en ligne.
Tout en nuance, là, je commence par Madame Tenda. C'est pour dire que nous avons commencé par dire que avant d'aller vers le partage de la succession, on commence par liquider d'abord le régime matrimonial. Donc, ça dépend du régime matrimonial que vous aviez choisi avec votre mari. Si c'était, par exemple, la séparation des biens, c'est le régime d'ailleurs que l'on conseille au couple dont un des membres fait des affaires. Si la femme était commerçante, par exemple, le mari non, eh bien, pour protéger, entre guillemets, ses biens, eh bien, ce couple a intérêt à adopter le régime de séparation des biens. Comme ça, à la mort du défunt, on ne confond pas ses biens propres avec les biens de la femme. Mais même si le couple avait choisi le régime de la communauté universelle des biens, eh bien, avant de partager les biens, on va d'abord prendre ce qui revenait au couple en commun et les partager en deux. C'est-à-dire que si la maman avait contribué pour 70%, comme elle nous dit là, finalement, dans le cadre du régime matrimonial, de la dissolution du contrat de mariage, elle aura 50% des biens du couple. Et les 50% là sont considérés comme les biens du mari, qui seront partagés aux autres héritiers. Et elle reviendra comme héritière aussi pour prendre un 12e de cette part-là. Donc, elle n'est pas aussi lésée que l'on puisse le croire si on applique la loi.
Madame Tenda, vous êtes édifiée?
Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut changer le régime pendant qu'on est ensemble? Parce qu'à un moment, on a évolué, on trouve qu'il faudra changer et peut-être qu'on ne connaissait pas encore l'universalité des biens en commun. Et après, est-ce qu'on peut changer pour séparer les biens à un certain moment?
Merci beaucoup, madame, pour vos questions tout à fait pratiques. Effectivement, la loi a prévu cela. Au moment où vous avez commencé, peut-être que vous ne faisiez pas des affaires, et pendant le mariage, l'un des époux développe maintenant des affaires, etc., et il veut protéger, hein, n'est-ce pas, le bien du couple. Ce n'est pas souvent de mauvaise foi, hein, ça se fait aussi pour protéger le patrimoine du couple contre des sévices et autres. Alors, en ce moment-là, la loi accepte que le couple puisse changer de régime matrimonial, mais cela n'est permis qu'une seule fois durant toute la vie. Donc vous avez une seule opportunité de changer de régime matrimonial. Et si vous étiez en communauté universelle, vous pouvez, par les juges, passer, n'est-ce pas, à la communauté, à la séparation des biens. Mais vous ne pouvez plus revenir sur ce choix. Donc c'est le changement une seule fois, sinon ce serait créer une instabilité. Donc madame, il est possible de changer de régime matrimonial, mais il faut le faire une seule fois et après c'est interdit.
Bien, merci de nous avoir appelé, Madame Tenda de Kinshasa. Alpha, vous êtes également à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, bonjour Alpha, allez-y.
Oui, bonjour, j'ai une petite préoccupation que notre invité peut m'aider. Oui, en fait, nous, pour notre papa, nous sommes confrontés vraiment à cette situation. Quelle est la situation, en fait? Notre papa s'est marié à 5 femmes. Parmi les 5 femmes, il n'a pas fait et il n'a fait aucun mariage civil, mais il a quand même fait 4 mariages civils. Il a fait 4 mariages non coutumiers, un mariage coutumier.
Alpha, votre papa avait épousé 4 femmes, vous voulez dire?
Non, non, 5 femmes.
5 femmes.
5 femmes.
Oui.
Et il a fait 4 mariages coutumiers, mais il n'a pas fait aucun mariage civil. Maintenant, nous sommes confrontés à cette situation. Quand le papa va mourir, nous ne savons pas comment est-ce qu'on va se partager le bien. Parce qu'il n'a pas fait aucun mariage, il n'a fait aucun mariage civil. Qu'est-ce que notre invité peut m'aider à cette situation?
Maître Guillaume. Alpha. Si vous vous permettez, je vous dis, il y a un auditeur qu'on a lésé, là on n'a pas répondu à sa question, l'étudiant de Calémie.
Ah voilà, l'étudiant, oui.
Qui parlait de demander si une deuxième femme, parce que tout ça est lié, hein, demander si une deuxième femme peut contracter un mariage civil.
L'étudiant de Calémie.
Oui, c'est clairement non. Parce que notre loi consacre le mariage monogamique. Donc, au Congo, vous ne pouvez pas avoir plus d'une femme.
Et donc l'État ne peut pas vous accepter à venir célébrer un deuxième mariage civil.
Mais le père de Alpha a eu 5 femmes.
Voilà pourquoi je disais que c'est lié, je vous dis.
Ouais.
Il a eu 5 femmes, j'allais dire chapeau, mais ce n'est pas encouragé. Et parmi les 5, 4 sont passés par le mariage dit coutumier. Vous voyez comment les coutumes viennent aussi un peu heurter la loi.
Oui.
Alors on ne nous dit pas la première, elle était sous quel régime, on nous dit que, en tout cas, toutes les 5 n'étaient pas passées par le mariage civil.
Mmh.
Alors il demande ce qu'il en est. Alors pour le partage,
il a peur, hein, il s'est dit après le décès de son père, qu'est-ce qu'il va
dire? Oui, oui, première chose d'abord, la règle sur l'héritier demeure. Hein, comment on appelle le liquidateur.
Mmh.
Le liquidateur, sera le plus âgé des héritiers. N'est-ce pas?
C'est un peu flou, hein. Cette notion de.
Exact, oui. Alors, dès que le liquidateur est là, c'est lui qui est censé identifier les différents héritiers, et parmi eux, tous les enfants ont un droit à l'héritage, qu'il a reconnu de son vivant.
Mmh.
Même les enfants de ces femmes-là qu'il a épousées par mariage coutumier, n'est-ce pas, sont des héritiers à part entière, pour autant qu'il les ait reconnus de son vivant. Et dans le cas d'espèce, je pense que tout le monde connaît ses enfants, il s'est toujours comporté comme un père vis-à-vis de ses enfants-là. Le problème ne se posera pas. Le problème se posera maintenant au niveau des femmes. Parce que les femmes sont censées venir aussi, n'est-ce pas, d'abord, au niveau du contrat de mariage, malheureusement, aucune d'entre elles ne prétendra à la liquidation du régime matrimonial.
Malgré ça, elles ne vont pas se laisser faire. Hein.
Bien sûr, et aucune d'entre elles, malheureusement, ne reviendra comme héritière de la deuxième catégorie, parce qu'elle n'étant pas reconnue par la loi. Mais moi, je voudrais inscrire une petite nuance ici. Eh bien, il n'y a pas que le mariage civil hein, qui peut vous établir comme étant la femme de quelqu'un.
Mmh.
Et il y a aussi, d'abord, tous ceux qui se sont mariés anciennement, soit avec les attestations, comment on appelle, le mariage coutumier monogamique, etc.
Mmh.
Bon, si la première femme a bénéficié de ça, elle peut, n'est-ce pas, prétendre à la qualité d'épouse. Et puis, il y a enfin la commune renommée qui peut établir de notoriété que celle-ci a était sa femme, la première femme avec laquelle il a toujours vécu, et les autres sont venus en retard. Et donc, vous pouvez aller voir le bourgmestre de la commune pour qu'il vous établisse, pas le bourgmestre, mais les juges, pour qu'il vous établisse, qu'il homologue un acte de notoriété qui aurait été fait à la commune.
Mmh.
Et par rapport à ça, vous pouvez être reconnu la première, hein, je vais dire à la première, parce que souvent c'est là qui est lésée, qui a vu venir toutes les autres. Eh bien, celle-là peut être reconnue comme ayant été la femme légitime de ce monsieur-là, et participer à l'héritage. Mais ça devient des procédures un peu compliquées, aller trouver une attestation, il faut que des témoins viennent témoigner auprès de l'autorité municipale, et qu'ensuite cet acte aille au tribunal pour être homologué. C'est un peu compliqué, mais par principe, lorsque vous n'avez pas été au mariage civil, vous, la femme, vous n'avez aucun droit à la participation au partage de l'héritage.
Alors, voilà. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut désigner un liquidateur pour qu'il va gérer les biens du défunt. Et ici, les héritiers n'arrivent toujours pas à s'accorder. C'est possible de recourir au service d'un avocat.
Oui, oui, oui. Généralement, pour bien faire la procédure, vous prenez un professionnel du droit, un avocat qui va vous accompagner devant les juges, et vous allez expliquer, assigner tous les autres héritiers, celui qui prend l'initiative, pour dire qu'ils viennent s'entendre désigner par le tribunal un liquidateur qui serait accepté par tous. À ce moment-là, on va l'appeler le liquidateur judiciaire. C'est lorsque le liquidateur légal, celui qui était prévu par la loi, est contesté, on le trouve indigne, etc.
Ou escroc.
Il ne rassure pas les gens.
Pas les autres.
Et tous les héritiers ont le droit, n'est-ce pas, de formuler des réserves vis-à-vis d'un héritier. Il faut que l'héritier soit accepté de tous. Sinon, c'est le tribunal qui en désigne un, on l'appelle à ce moment-là l'héritier le liquidateur judiciaire, c'est celui-là qui va administrer la succession.
Bien, maître Guilherme Malheur est juriste. Merci d'avoir conduit à notre invitation et bon début de signal.
Merci, je dis à vous et à toute l'équipe technique de Radio Campus. Oh,